Vous écoutez, on lit pour vous.
Le mystère du noyau de la Terre. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 27 avril 2025 dans la presse. Gilles Potvin nous écrit. Des articles soi-disant scientifiques affirment que le centre de la Terre tourne maintenant dans le sens contraire aux couches supérieures. J'aimerais bien qu'un géologue clarifie cette question. Une étude parue en février 2025 dans la revue Nature Géosciences conclut que le noyau de la Terre tournait récemment plus rapidement que la surface et qu'il tourne maintenant plus lentement. Elle ne dit donc pas que le centre de la Terre tourne en sens contraire de sa surface. Quand j'ai vu les chiffres, j'étais sceptique, indique John Vidal, un géologue de l'Université de Californie du Sud, qui est l'auteur principal de l'étude publiée à la mi-février. Mais j'ai vérifié et revérifié, et j'ai dû me rendre à l'évidence. Le noyau de la Terre ralentit ce qu'on soupçonnait, mais aussi n'est pas solide. Cette malléabilité introduit une déformation de l'interface entre le noyau et le manteau de la Terre à cause du ralentissement de la vitesse de rotation du noyau. Personne n'a mesuré de quoi est fait le noyau de la Terre. Mais les modèles géologiques et planétologiques montrent qu'il y a au centre de notre planète une région différente du manteau qui s'étend de la surface jusqu'à 5000 km de profondeur. Les données de M. Vidal montrent que le centre de la Terre tourne sur lui-même quelques kilomètres-heure plus lentement que le manteau de la Terre. Ça crée une déformation de 100 mètres environ, parce que le noyau de la Terre est plus mou que nous pensions. Comment le chercheur californien a-t-il mesuré ces phénomènes? Il a utilisé des sismographes situés à Yellowstone et en Arkansas, aux États-Unis, qui ont enregistré des tremblements de terre dans les îles Sandwich du Sud, un archipel britannique situé au sud-est de l'Amérique du Sud. C'est un endroit particulièrement propice aux tremblements de terre, et il est situé à des distances adéquates de nos deux stations sismiques de Yellowstone et de l'Arkansas, qui nous permettent de voir les interactions entre les séismes et le noyau de la Terre, explique M. Vidal. L'analyse a inclus 168 séismes dans l'archipel entre 1991 et 2023. Est-ce qu'on sait pourquoi le noyau ralentit par rapport au manteau? John Vidal résume. On pense que c'est un yo-yo. C'est un cycle de 70 ans. Le noyau tourne de plus en plus vite, puis est ralenti par l'inertie du manteau, et ralenti jusqu'à être plus lent que la vitesse de rotation du manteau. Et ultérieurement, il recommence à accélérer. Selon M. Vidal, des instruments plus précis devraient être en mesure de confirmer cette théorie d'ici une décennie. Les travaux de M. Vidal découlent d'une révolution dans la compréhension de la géologie profonde de notre planète, survenue en 1996. Des géologues de l'Université Columbia avaient alors constaté dans Nature que le noyau de la Terre ne tournait pas toujours à la même vitesse que son manteau. The Core. Cette révolution a suscité le film Catastrophe The Core, de 2003, mettant en vedette Hilary Swank, qui postulait que le noyau de la Terre arrêtait de tourner à cause d'expériences militaires. Une équipe de scientifiques voyageait jusqu'au noyau pour le relancer. D'un côté, on aime que notre domaine d'étude, le noyau, fasse partie de la culture populaire. D'un autre côté, on n'aime pas les absurdités scientifiques, dit M. Vidal. Au bout du compte, les chercheurs comme moi ont aimé The Core. Mais le noyau ne pourrait pas s'arrêter de tourner, il y a trop d'inertie. Et on pourrait se rendre jusqu'au noyau si on avait vraiment beaucoup, beaucoup d'argent, mais pas avec des humains. En savoir plus. Source, Institut d'études géologiques des États-Unis, USGS. 2442 kilomètres, diamètre du noyau terrestre. 12 756 kilomètres, diamètre de la Terre. C'était Le mystère du noyau de la Terre, un texte de Mathieu Perrault, paru le 27 avril 2025 dans La Presse.
Quand la NASA flatte Trump dans le sens du poil. Un texte de Philippe Mercure, paru le 13 mai 2025 dans La Presse. J'avoue avoir avalé mon café de travers en voyant passer le communiqué « La NASA atteint de nouveaux sommets au cours des 100 premiers jours de l'administration Trump », titrait la missive diffusée à la fin du mois d'avril 2025. Vous avez bien lu. Une institution scientifique du calibre de la NASA prend la peine de publier un communiqué pour vanter le début de mandat de Donald Trump. Un début de mandat marqué par des attaques sans précédent contre les institutions scientifiques. On sait que Trump a instauré un climat de peur tel que plusieurs jugent devoir lui lécher les bottes. Mais voir la NASA s'abaisser à ce triste jeu brise quand même certaines illusions. Le reste du communiqué est surréaliste. La NASA y vante le leadership audacieux de Donald Trump. La litanie des victoires remportées au cours des 100 premiers jours ouvre la voie à des succès inédits pendant le reste du mandat, écrit l'organisation dans un élan lyrique douteux. Il ne manque que les violons ou une fanfare. L'administratrice en chef de la NASA, Janet Petro, n'est pourtant pas une marionnette incompétente parachutée par Donald Trump. Elle a bien été nommée par le nouveau président, mais en attendant que son véritable protégé, le milliardaire Jared Isaacman, voit sa nomination confirmée. Madame Petro était auparavant directrice du John F. Kennedy Space Center et a fait sa carrière comme ingénieure au sein de la NASA. Le pire est que la flagornerie de la NASA ne semble pas avoir fonctionné. Ou est-ce que ça aurait été encore pire sans elle? 4 jours après la publication du communiqué, Trump proposait de sabrer le budget de l'agence du quart, soit 6 milliards de dollars américains. Programmes scientifiques, robotique, développement technologique, études de la Terre, toutes les activités de la NASA écopent, à part le projet d'envoyer des humains sur Mars qui reçoit 1 milliard US de plus. Le plan est clair. Donald Trump veut transformer la NASA en joujou capable de servir son ami Elon Musk et ses ambitions martiennes. Même une fois les propositions délirantes de Trump publiées, la patronne de la NASA s'est bien gardée d'émettre la moindre critique. J'aurais aimé voir une résistance, une combativité. Yves Gingras, sociologue et historien des sciences à l'Université du Québec à Montréal, l'UQAM, m'a ramené sur Terre. « On oublie que ces gens savent comment ça marche, » dit-il. « Ils savent que Trump est un égocentrique et qu'il faut le flatter dans le sens du poil. Leur objectif n'est pas de sauver le monde, mais de défendre leur institution. » Yves Gingras me rappelle que, contrairement à une université privée comme Harvard, qui ose critiquer Trump et offre une réjouissante résistance à ses politiques anti-sciences, la NASA dépend entièrement des fonds publics et ne peut se permettre de mener un tel combat. Parler au professeur Gingras m'a fait du bien, parce que lui est convaincu que, pendant que les dirigeants de la NASA font des courbettes de façade devant Trump, il s'active en coulisses. Il tente de faire comprendre aux gouverneurs de divers États, dont plusieurs républicains, les conséquences qu'auraient des coupes de 6 milliards US dans la NASA sur leurs économies. Ce n'est pas Trump qui décide, mais le Congrès américain, rappelle Yves Gingras. Il serait fascinant de voir comment ce combat se terminera. Parce que la NASA n'est évidemment pas la seule institution scientifique visée par Trump dans ses recommandations sur les fonds discrétionnaires publiées au début du mois. Le président propose des coupes de 40 % dans les National Institutes of Health qui financent la recherche en santé, de 40 % dans les Centers for Disease Control and Prevention, l'Agence de santé publique américaine, de 55 % dans l'Agence de protection environnementale, de 56 % dans la National Science Foundation. Une hécatombe. Plus optimiste que moi, Yves Gingras a bon espoir que ces coupes finiront par être atténuées. Il invoque la politique du baril de porc, pork barrel politics, qui fait en sorte qu'on finit souvent par saupoudrer des fonds publics pour soutenir divers projets locaux. Le professeur Gingras prend comme exemple un dossier qui a été peu suivi ici, celui des frais indirects. Lorsque des subventions sont versées aux chercheurs, elles sont bonifiées d'un certain pourcentage afin de payer les laboratoires, les frais administratifs, l'électricité. Selon les domaines, ces frais indirects peuvent atteindre jusqu'à 40 % du montant des subventions. Or, sous l'impulsion de Trump, les National Institutes of Health ont fixé un taux unique de 15 % pour les frais indirects, semant la stupeur chez les chercheurs. Un juge fédéral vient toutefois de bloquer temporairement la mesure par une injonction. Yves Gingras y voit la preuve que le programme anti-science de Trump rencontrera de la résistance. Il faut espérer qu'il ait raison. Dans une entrevue récente, le scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion, me confiait qu'il ne craint pas seulement pour les chercheurs américains dont les emplois sont actuellement menacés. C'est toute la jeune génération qu'on pourrait aussi perdre, estime-t-il. Il y a un risque que les jeunes aux États-Unis se disent « Je n'irai pas en recherche, il n'y a pas d'avenir là-dedans ». On pourrait certainement attirer une partie d'entre eux chez nous. Le gouvernement du Québec n'a toutefois toujours pas débloqué de fonds pour profiter du contexte et recruter des chercheurs américains, même si le scientifique en chef assure qu'il existe un appétit pour ça à Québec. Il faudrait bouger. La Commission européenne a déjà débloqué 500 millions d'euros dans ce but. La France, 100 millions. Mais les chercheurs américains ne pourront pas tous s'exiler. On oublie souvent qu'en plus d'être une puissance militaire et économique, les États-Unis sont une puissance scientifique. Personne n'a intérêt à ce qu'elle s'écroule. Les batailles pour les budgets scientifiques qui s'amorcent aux États-Unis auront des répercussions bien au-delà des frontières américaines. Ne reste qu'à espérer que tant les courbettes de la NASA que les frondes de Harvard portent leurs fruits. C'était « Quand la NASA flatte Trump dans le sens du poil ». Un texte de Philippe Mercure, paru le 13 mai 2025 dans La Presse.
Droit d'auteur, une promesse oubliée. Un texte de Lise Létourneau, paru le 25 avril 2025 dans Le Devoir. Lise Létourneau est présidente de Copybec. C'est dans un climat de préoccupation persistante que le milieu du livre souligne encore une fois cette année la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Pendant que la campagne électorale canadienne battait son plein et que la souveraineté culturelle du pays est plus que jamais menacée, cette journée symbolique s'inscrit dans un contexte particulièrement alarmant. Marquée par de profondes inquiétudes et la frustration au sein du milieu du livre face à l'indifférence et à l'inaction des décideurs politiques. Le 23 avril 2025, la célébration du livre est assombrie par le constat qu'aucun progrès réel n'a été accompli pour garantir aux auteurs et au secteur du livre une rémunération juste et équitable de leur travail, dont nos dirigeants politiques continuent d'ignorer l'urgence. Ces derniers mois, le secteur du livre nourrissait pourtant l'espoir que le gouvernement saisirait l'occasion du 100e anniversaire de l'entrée en vigueur de la loi pour redonner aux acteurs du secteur les moyens de se faire rémunérer lorsque leurs œuvres sont reproduites dans le milieu de l'éducation. Or, l'inertie du Canada en matière d'utilisation équitable persiste, privant ainsi les créateurs canadiens de près de 200 millions de dollars en revenus de licence depuis 2012, soit des millions de dollars dus à leur travail. Occasion manquée. La campagne électorale s'est donc présentée aux yeux du milieu du livre comme étant une occasion pour les partis politiques en lice de reconnaître que notre pays mérite un système de droit d'auteur robuste. Pourtant, bien que tous ces derniers aient reconnu par le passé la nécessité de corriger l'exception d'utilisation équitable à des fins d'éducation dans la loi sur le droit d'auteur, rien n'indique, d'après les plateformes déposées, que ceux qui sont en mesure de former le prochain gouvernement comptent moderniser la loi, encadrer l'intelligence artificielle au bénéfice des industries créatives ou protéger l'exception culturelle dans les négociations commerciales, des mesures pourtant essentielles à la défense de notre souveraineté culturelle. Il ne peut y avoir de souveraineté culturelle sans une juste rémunération des créateurs. Dans aucun autre secteur d'activité, le vol et l'utilisation d'un produit sans compensation ne seraient tolérés. C'est pourtant ce que permettent les exemptions actuelles aux droits d'auteur dans le domaine du livre au Canada. Le nouveau gouvernement du Canada rendra un mauvais service à l'ensemble du pays s'il ne défend pas notre souveraineté culturelle et ne protège pas les créateurs, notamment par une réforme attendue de la loi sur le droit d'auteur. Ne pas agir ne relèverait plus de la négligence, mais d'un mépris assumé envers nos créateurs. Tension. Dans un contexte de tension croissante avec les États-Unis, il est impératif de défendre nos créateurs et de préserver notre culture. Il faut absolument veiller à ce que les auteurs québécois et canadiens ne paient pas le prix de cette passivité, surtout à un moment aussi critique. Sans souveraineté culturelle, nous ne pouvons espérer demeurer forts ni faire front commun contre les menaces extérieures. Il y a un mois à peine, le Bureau du représentant américain au commerce a de nouveau inscrit le Canada sur sa liste d'observation en matière de propriété intellectuelle, qualifiant les exemptions liées à l'utilisation équitable à des fins d'éducation d'irritant commercial. À cela s'ajoute une résolution de la Fédération internationale des organisations de droits de reproduction, IFRRO, adoptée l'automne dernier, qui pressait le Canada de modifier sans délai sa loi. Alors que les cultures canadiennes et québécoises sont sous pression, Il est embarrassant que le Canada se soit désisté de ses obligations envers nos créateurs en permettant que des failles persistent dans notre régime de droit d'auteur. Cela nous met en porte-à-faux non seulement avec les États-Unis, qui cherchent maintenant à affaiblir davantage notre régime culturel, mais aussi avec les pays du monde entier. Le gouvernement devra faire preuve d'un leadership renouvelé et assumé envers la défense et la protection des créateurs d'ici. Sans réforme du droit d'auteur, chaque jour de statu quo maintient le secteur littéraire canadien dans une position de vulnérabilité et d'abandon. Les livres sont au cœur de notre tissu culturel. La force de notre secteur culturel réside dans notre capacité à raconter nos récits. Les créateurs du Québec et du Canada appellent leurs dirigeants à défendre notre souveraineté culturelle. Nous ne pouvons qu'espérer que le gouvernement du Canada se montrera enfin à la hauteur de cette responsabilité. Autrement, devra-t-on conclure une fois de plus que le gouvernement fédéral aura manqué l'occasion d'entendre les préoccupations du Québec et de reconnaître l'importance de son secteur culturel? C'était « Droit d'auteur, une promesse oubliée », un texte de Lise Létourneau paru le 25 avril 2025 dans Le Devoir.
Filet social pour créateurs précaires, un texte de Jules Couturier de L'Itinéraire, paru le 3 mai 2025 dans La Presse. La crise que traverse le milieu artistique québécois n'est pas nouvelle. Seule une minorité d'artistes parvient à bien gagner sa vie. La majorité des créateurs vivent sous le seuil de la pauvreté, multipliant les emplois précaires tout en poursuivant leur carrière artistique. C'est dans ce contexte que le « chez nous des artistes » prend tout son sens. En offrant un logement abordable et un espace de vie sûr à une communauté d'artistes vieillissants. L'histoire de la résidence, le « chez nous des artistes », remonte aux années 1980. L'idée de créer un espace dédié aux artistes en difficulté a été lancée par des figures importantes du milieu artistique. Grâce à un soutien politique, le projet a vu le jour en 1986 sur la rue Beaubien, dans le Nouveau-Rosemont, suivant un modèle semblable aux organismes sans but lucratif. Le but était clair, créer un lieu de vie pour les artistes qui peinaient à joindre les deux bouts. La résidence s'adresse exclusivement aux artistes de 50 ans et plus. Plusieurs, malgré une carrière active, n'ont pu accumuler suffisamment d'économies en raison de leur statut de travailleurs autonomes. À 65 ans, lorsque vient l'heure de la retraite, leurs pensions ne sont souvent pas suffisantes pour vivre ailleurs, ce qui fait de cet espace un élément crucial de leur bien-être économique et social. Notre clientèle qui arrive ici, elle ne pourrait pas vivre ailleurs, affirme André Guilbeault, la présidente de la résidence. La résidence est le foyer de nombreux artistes, plus ou moins connus du grand public, mais qui ont eu un impact majeur sur la scène culturelle québécoise. Parmi les résidents, on retrouve Jimmy Bond, un auteur-compositeur qui a écrit presque toutes les chansons de Nicole Martin. Plus connu, Louison Dany, alias Rita Bougon, de la très populaire série Les Bougons, vit maintenant au Chez nous des artistes. La résidence compte 78 logements, dont 30 sont subventionnés par la Société d'habitation du Québec. Les autres logements ont des loyers très abordables, 650 $ pour un 3,5 et 750 pour un 4,5. Pour cette raison, la demande est forte et les disponibilités limitées. Vers un chez nous pour les artistes de demain? Si pour l'instant le chez nous des artistes est réservé à une population plus âgée, l'organisation n'est pas fermée à un changement éventuel. Je reçois de plus en plus de demandes de jeunes qui voudraient venir ici, indique Gilbert Killeen, directeur général de l'établissement. Un jeune qui a 19-20 ans, qui veut être comédien ou musicien, il arrive dans un monde où il faut se battre pour sa place. C'est une vie de misère, estime André Guilbeault. Un dialogue est en cours avec l'Union des artistes pour adapter les conditions d'admissibilité et répondre à ce besoin croissant de logement pour les jeunes artistes en difficulté. Si les artistes bénéficient aujourd'hui de certaines protections, les jeunes talents, en particulier ceux qui évoluent dans des disciplines moins institutionnalisées, se retrouvent souvent en dehors du système. La présidente insiste sur la nécessité de proposer des logements abordables aux jeunes artistes et aux familles où l'un des conjoints est dans le milieu culturel. Avec un revenu familial moyen de 40 000 $ par an, il est impossible d'acheter une maison ou de louer un appartement à 2 500 $ par mois. Un quotidien animé par la culture. Malgré la précarité qui affecte une grande partie des résidents, le chez-nous des artistes met un point d'honneur à offrir des conditions de vie décentes. Lorsqu'un logement devient vacant, il est systématiquement rénové, garantissant ainsi que l'espace reste fonctionnel et agréable à vivre. La salle communautaire rénovée permet d'accueillir des spectacles tout au long de l'année. Cette salle a été modernisée grâce à un héritage laissé par la chanteuse Alice Robbie, résidente de l'endroit jusqu'à son décès en 2011, qui avait pour seule condition à son legs que l'argent aille aux loisirs pour les résidents de l'établissement. Les traditions communautaires sont également un pilier fondamental de la vie au sein de la résidence. Les fêtes de Noël, Halloween et autres événements sont des moments privilégiés où les résidents se retrouvent pour célébrer ensemble, dans une ambiance de camaraderie et de solidarité. Contrairement aux tendances modernes, où les festivités sont souvent décontractées, ici, les habitants prennent soin de s'habiller élégamment, avec des tuxedos et des robes longues, en hommage à l'importance de ces moments de partage. En somme, le chez-nous des artistes incarne bien plus qu'un simple lieu de résidence. Il représente un rempart contre l'oubli et la précarité, un espace de dignité, de mémoire vivante et de solidarité entre créateurs. C'était « Filet social pour créateurs précaires », un texte de Jules Couturier de L'Itinéraire, paru le 3 mai 2025 dans la presse.